It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.
Bonjour et bienvenue au Palais du Pharo pour cette dernière journée dédiée au documentaire avec le Festival international du documentaire Marseille qui ce soir clôturera sa 17e édition. Comme tous les jours depuis jeudi dernier, à 10h sur Grenouille et en direct du festival, c'est un moment privilégié de rencontre avec des réalisateurs qui présentent ici leurs films. Ce matin, nous allons aborder la question de l'esthétique du documentaire, de la poésie. Sortir du réel, le contourner ou au contraire le sublimer, le faire entrer dans une intimité, le poétiser. Bref, quelle écriture donnent les réalisateurs au réel ? Avec nous, Pierre-Marie Goulet qui présente Encontros et Felipe Guerrero pour Paraíso. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Violetta est avec nous également qui assurera la traduction de Felipe puisque
Bonjour.
Felipe parle espagnol. On va commencer avec Pierre-Marie Goulet, le film Encontros, qui nous plonge de manière très lente, on va dire. On prend le temps de nous plonger et de rentrer dans l'intimité d'un village et d'une région, l'Alentejo, au Portugal. Rencontre avec une culture populaire au travers de poèmes, de chants. Rencontre aussi avec les habitants au travers d'un film projeté aujourd'hui dans ce village, et on entend les habitants réagir parce que c'est un film qui date de quelques décennies et donc évidemment la situation et les traditions ont pu évoluer entre temps et les habitants ont réagi. C'est une scène très intéressante. Donc la question de la mémoire évidemment est primordiale dans ce film. Et par ces rencontres, on entre vraiment dans l'intimité poétique d'un village et d'une région. Donc Pierre-Marie Goulet, j'avais envie de commencer par vous demander ce petit bout de terre et de mer du Portugal, comment vous le connaissez ? Qu'est-ce qui, voilà, comment vous êtes entré dans cette histoire, dans son histoire aussi à cette région ?
Je veux déjà préciser que je vis au Portugal, bien que je sois français, donc ça aide. L'histoire de ce film, ce film a un début, c'est-à-dire qu'il y a un autre film que j'ai fait il y a une dizaine d'années, à la demande, enfin, par une rencontre d'un ingénieur du son avec lequel je travaillais, qui était Antoine Bonfanti, qui nous a quittés cette année. Et il connaissait un Corse qui s'était installé au Portugal fin des années 50, en 59, et qui a lui tout seul... avait sauvé, c'est un ethnomusicologue, avait sauvé la mémoire des chants populaires portugais. Les Portugais, pour les Portugais, c'est un mythe, c'est le Corse qui aimait le Portugal. 85 à 90% de la mémoire populaire du Portugal a été sauvée par ce Corse. Bon. Et c'est en faisant ce film que j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont extrêmement ému. Et j'ai donc eu une fois ce film sur le portrait sur le parcours de Michel Giacometti, puisqu'il s'appelait comme ça. Une fois ce film fait, j'ai eu envie de poursuivre la relation un peu plus d'une autre manière avec certaines personnes que j'ai rencontrées, comme Virginia, que l'on voit, la poétesse paysanne que l'on voit dans le film.
Et qui chante magnifiquement bien, et vous les portez vraiment sur le devant de la scène, et même si on sent une certaine réserve et humilité et modestie de leur part, parce que ce ne sont pas des chanteurs professionnels, ils ne jouent pas sur des scènes. On sent aussi une timidité chez eux.
Chez Virginia, par exemple, qui est un des pivots du film, on peut dire ça comme ça, même si c'est une personne qui... C'est une paysanne, elle n'est absolument pas chanteuse professionnelle, ni poète, dans le sens éduqué. C'est une paysanne qui a commencé à travailler dans les champs à 11 ans, ce qu'ils appelaient de sol à sol, c'est-à-dire du lever au coucher du soleil, qui n'a donc fait pratiquement pas d'études. Elle sait à peine écrire, Donc tous les poèmes sont dans la tête, ils ne sont pas sur du papier. Et c'est effectivement, elle a une certaine réserve jusqu'aux années 90. Elle n'osait pas dire qu'elle faisait les poèmes. Quand elle disait un poème et qu'on lui disait « Oh, c'est beau », ou c'est quelque chose comme ça, elle disait, qu'on lui demandait d'où ça venait, elle disait « Ah, je ne sais pas, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté » ou « je l'ai entendu dans la rue, quelqu'un le dire ». Mais elle n'osait pas dire qu'elle faisait cette chose qui, un peu bizarre qui s'appelait des poèmes.
Toutes ces rencontres que vous avez faites avec ces artistes, même si ils ne sont pas nommés comme ça, est-ce qu'ils sont issus d'un même village? Est-ce qu'on ressent vraiment quand on va là-bas qu'il y a une culture populaire qui est très forte, qui est encore très vivante?
Alors, toute une partie du film se situe en ce qu'on appelle le Bas-Alentejo, qui est la région la plus pauvre du Portugal, si ce n'est, je crois... En tout cas, l'année dernière, c'était encore la région la plus pauvre d'Europe par habitant. Ça ne se sent absolument pas parce qu'ils ont une dignité incroyable. Mais c'était une région où la poésie populaire était très, très, très forte. Bon, région où les gens étaient analphabètes, mais avaient des dizaines et des centaines de vers dans la tête et même pouvaient se parler en vers. Je me souviens quand j'ai fait les premiers repérages du premier film et que je voulais voir un décor d'une église, voir si je pouvais y tourner, je demande à une vieille dame qui m'a répondu, qui a tenu toute la conversation en vers, rimé. Une conversation quotidienne. Mais alors ça, c'est bon. Alors il y a le côté de la versification comme ça, dans le vers quotidien, mais c'est pas, on n'atteint pas de la poésie, on en a encore que de la versification, disons, à parler. Bon. Alors que Virginia, c'est différent. Je crois qu'elle va complètement ailleurs. Mais ça rentre quand même dans cette tradition de poète populaire.
Est-ce que cette tradition continue à se transmettre?
J'ai bien peur que Virginia soit une des dernières personnes.
Elle n'a pas d'enfants?
Si, elle a des enfants, mais le problème n'est pas tellement... Ça va se transmettre maintenant par l'écrit ou d'autres formes, mais si on veut, le contexte qui faisait naître ce type de poésie populaire a disparu ou en train de disparaître. Donc le terreau, le terrain sur lequel ça naissait, n'existant plus, ça va trouver une autre forme, mais celle-ci, je crois que c'est terminé.
Felipe Guerrero, votre film Paraíso traite également de la poésie, ou en tout cas part de la poésie, pour donner une image sensible entre mémoire historique, entre passé, on va dire, et un présent encore très fragile aujourd'hui en Colombie. Donc c'est un film où il n'y a pas de voix off, où il n'y a pas d'interview, où le son est très musical ou sonore, ou avec de temps en temps quelques poèmes lus. C'est un film qui est fait beaucoup à partir de matériaux d'archives, enfin de documents d'archives, également avec des images tournées en Super 8 ou en vidéo aujourd'hui, hein, que vous avez fait. Donc le montage comme ça est un va-et-vient entre le passé, le présent, entre la mémoire, entre aujourd'hui. Bon, finalement, le temps, on ne sait plus ce qui est passé, ce qui est présent. On en parlera plus tard. Mais c'est votre premier long document cinématographique. Vous êtes poète. Et j'avais envie de vous demander, pour commencer, pour parler de votre pays, ne pas avoir pris la plume, bon, j'imagine que vous l'avez fait par ailleurs, mais pourquoi là, aujourd'hui ou hier, vous avez eu envie de filmer, de prendre la caméra et de rendre compte d'une situation Violetta, dans le micro.
Comment est-ce que tú cogí, en vez de coger la pluma para escribir esa poesía, decidiste hacerlo de manera cinematográfica?
Había un deseo de sanar mi distancia con ese país.
Y había un désir de soigner la distance avec ce pays.
Y me interesaba rescatar esa memoria desde un modo cinematográfico.
Il s'intéressait à sauvegarder cette mémoire à travers la cinématographie.
y preparé un proyecto para efectuar un viaje en Colombia y recorrer esa memoria histórica y mi propia memoria a través de ese viaje por las ciudades colombianas.
Donc il a préparé un voyage à travers plusieurs endroits de la Colombie pour sauvegarder cette mémoire, une mémoire propre et une mémoire qui appartient au pays.
Y la primera intención fue que yo no quería escribir nada de propio sobre ese país, sino que ese país me diera algo para yo escribir de la manera en la que lo escribí, que fue la manera cinematográfica.
Que son intención c'était pas d'écrire quelque chose sur ce pays, lui, en donnant son avis, mais c'était plutôt de se laisser emporter par la réalité, de laisser que cette réalité l'envahisse et ensuite le manifester à travers son film.
Se trató como de una inmersión en un pasado que era mío y de ese país.
Ça s'est traité d'une immersion dans son passé à travers ce pays.
Y fue muy importante el formato en el que lo filmé.
Ça a été très important aussi le format dans lequel il a filmé.
Porque el Super 8 me permitió una ligereza extraordinaria.
Le Super 8 l'a permis une légèreté
y un camuflaje por Colombia que me permitió que nadie se diera cuenta que yo estaba filmando.
Et aussi de le faire avec beaucoup de discrétion sans que personne se rende compte qu'il était en train de faire un film.
Porque me veían y decían, esa es una cámara antigua.
Parce qu'ils le voyaient en disant ça c'est une ancienne caméra, ça n'a pas d'importance.
Il n'y avait aucun type de risque.
Donc il n'y avait pas de risque.
C'est un problème de filmer en Colombie aujourd'hui dans la rue?
Es un problema de filmar en la calle hoy
sí,
en Colombia.
Sí, es un problema.
C'est un problème.
Vous vivez aujourd'hui en Argentine, donc pour vous immerger, comme vous dites, dans votre pays, enfin la Colombie, vous êtes en exil. Il faut avoir cette distance-là, elle est nécessaire, cette distance-là, pour avoir le recul, paradoxalement, pour s'immerger.
El proceso se combinó con un cambio en mi vida.
Le processus a été joint avec un changement dans sa vie.
Porque dejé de ver a Colombia desde una distancia europea.
Parce qu'il a arrêté de voir la Colombie avec une distance européenne.
Ir a Colombia a filmar.
Aller en Colombie pour filmer.
Y volver a salir nuevamente pero instalarme en Latinoamérica y verla desde allí.
Et sortir ensuite de la Colombie pour s'installer en Amérique du Sud et la voir depuis là.
Fue una reflexión intercontinental.
Ça a été une réflexion intercontinentale.
Justement, qu'est-ce qu'il en ressort de cette immersion? Aujourd'hui, quelle vision, quelle image vous avez de la Colombie? Le fait d'y être retourné, d'avoir filmé là-bas, est-ce que votre point de vue a changé? Le fait d'habiter pas très loin, est-ce que également ça peut jouer sur votre vision aujourd'hui de votre pays?
¿Qué ha cambiado para ti el hecho de vivir en diferentes partes del mundo y ver a Colombia desde una distancia? ¿Qué es lo que ha cambiado actualmente en ti con respecto a tu visión, la visión que tienes actualmente de Colombia?
Siento que hubo una fractura desde muy niño cuando me sacaron del país.
Il sent qu'il y a eu une fracture très tôt dans sa vie, depuis l'enfance, quand ils l'ont sorti du pays.
Que se ha efectuado en diferentes etapas de mi vida en relación con el país.
C'est une fracture qui est revenue dans plusieurs époques de sa vie. Ça a été récurrent.
Y que creo que va a suceder de aquí en adelante, porque es como si lo sintiera como una especie como de relación particular fragmentada en mi relación con ese país. Creo que va a ser así y no puedo hacer nada.
Et qu'il croit que ça va être ensuite comme ça pendant le reste de sa vie. C'est une appréhension du pays qui a été fragmentée et qui va être fragmenté dans le futur aussi.
Y creo que en mi visión de Colombia hace parte de lo que yo voy entendiendo es mi manera de hablar de ese país.
Disons que la manière comme évolue son appréhension de la Colombie est aussi liée à sa manière de parler de la Colombie.
Dans votre film, la question du temps, comme dans le film d'ailleurs de Pierre-Marie Goulet, la question du temps est évidemment importante. Là, dans Paraíso, le temps fait un aller-retour entre le passé et le présent. Donc du coup, on a presque l'impression que c'est figé, enfin, ou c'est cyclique, au contraire, que la situation reste la même.
En tu película se ve un vaivén entre el pasado y el presente, y que eso hace que haya un...
Comment il a travaillé cette question du temps?
¿Cómo trabajaste esta cuestión?
Estamos, por supuesto, hablando ahora de cosas inherentes a lo personal, que no tienen nada que ver en cierta medida con la construcción de la película, sino con mi vida.
Qu'on est en train de parler de quelque chose qui appartient à la sphère du personnel, pas tellement à la situation de la Colombie.
Sí, ¿sabes lo que dice? Era para decir que la película, de todas maneras, en sí fue pensada como una película afuera de lo que como yo me différemment movido fuera ou dentro de Colombia.
Que le film a été fait de manière indépendante de comment il peut se déplacer et apprendre la Colombie.
Era uniquement une précision, esto que quise.
C'était juste une
précision.
Un point qu'il voulait faire remarquer. Mm-hmm.
Y por lo que acabas de decir de ida y venida del tiempo que tiene la película.
Y por lo que tú viens de decir de ese vaivén, de ese aller-retour entre el pasado y el presente.
Es porque hubo una cosa que yo quise trabajar bastante importante, que fue el espiral sin fin que tiene los últimos 60 años de la historia de Colombia.
C'est parce que il voulait aussi travailler cette notion de l'espirale sans fin qui traverse la Colombie depuis 70 ans.
Y que creo que en la película algo se siente.
Et qu'il croit que dans le film on peut le ressentir.
Un peu.
Puisque vous juxtaposez des images d'archives en noir et blanc avec des images tournées aujourd'hui en vidéo, où vous avez, alors je me suis demandé si vous avez reconstitué, par exemple, on voit des militaires à un moment dans la brousse. Est-ce que vous avez est-ce que c'est une mise en scène pour se rapprocher justement d'une image d'archives passée?
Estas imágenes de archivo que pones en la película, como las imágenes de los guerrilleros, es un montaje o es real?
Absolument réel.
C'est absolument réel. Il a pris ça des archives qui étaient qui a été filmé dans la réalité.
Hay una escena en particular que me gustaría hablar.
Il y a une scène en particulier de laquelle il voulait parler.
Y que se refiere a aquello de lo real o de la puesta en escena.
Qui fait référence à cette notion de réel et de mise en scène.
Que es un archivo que pude capturar de la inmensidad de archivo de video que existe sobre la guerra en Colombia.
C'est un archive qu'il a pu capturer parmi la quantité d'archives qui représentent la guerre en Colombie.
Que eran archivos brutos de los cameramen.
C'était des archives brutes du cameraman.
Cuando el cameraman hace de director y le dice a los paramilitares cómo moverse en la escena para que su imagen quede mejor.
Que ça appartient quand le cameraman parle aux paramilitaires pour qu'ils bougent d'une certaine façon pour le filmer.
Il le dit momento action et los mueve dentro de la escena comme buscando el mejor encuadre. Ah, y estamos hablando de los paramilitares en medio de la guerra.
Et c'est quand les caméramans parlent aux paramilitaires, leur dit bouge, fais ci, fais ça pour mieux les filmer pendant que
y estamos hablando de los paramilitares en medio de la guerra.
Et là, on parle de paramilitaires au milieu de la guerre.
Pierre-Marie Goulet, Encontros, donc un film, on en parlait tout à l'heure, qui nous plonge dans la mémoire poétique d'une région, l'Alentejo, au Portugal. Il y a une phrase qui est dite par un de vos personnages, enfin, un des personnages du film. C'est du réel, hein, c'est pas un film fiction.
On peut dire personnage.
Qui dit « Le passé n'existe pas ».
Oui.
Le passé n'existe pas parce que de toute façon, si on en parle, on est au présent. On en parle au présent et donc la mémoire devient active maintenant. Donc oui. On fait ressurgir le passé maintenant en parlant.
Oui, et une autre manière de le dire, le présent est immédiatement du passé. Donc ce que vous venez de dire, c'est déjà du passé. Bon. Alors est-ce que je vais m'en souvenir?
Oui. Bon.
Non. Il y a dans le film, sur la, disons, sur la manière d'aborder le temps, une manière assez particulière. Encontre, ça veut dire rencontre en français. Donc, si je prends un exemple, je pense que ça sera assez parlant, puisque les personnes qui nous écoutent n'ont pas vu le film. Donc, je vais prendre un exemple que tout le monde peut, je pense, comprendre. Je crois que tout le monde, un jour ou l'autre, a fait une rencontre d'une personne ou d'un lieu, et au bout de 10 minutes ou une journée, on a l'impression d'avoir connu cette personne toute sa vie. C'est-à-dire que la datation, le fait chronologique ou historique de la date de la rencontre ne signifie absolument plus rien dans la relation profonde de la rencontre. Le film fonctionne un petit peu sur ce type de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour vers le passé, ni un aller-retour entre le passé et le présent. Il y a une espèce de télescopage constant, comme si tout avait toujours été là, et comme si tout était là maintenant. Donc ça enlève son côté passéiste et nostalgie. C'est un autre type de temps qui ne joue pas sur une notion ni chronologique ni historique.
Juste, on sent quand même une certaine nostalgie d'une perte d'une tradition dans cette région, à l'intérieur de la pratique de la pêche. Là, on sent quand même que ça n'existe plus, et on sent que c'est vraiment du passé, et on sent qu'il y a une nostalgie par rapport à cette tradition.
Alors, je vais préciser quand même qu'il y a deux régions du Portugal qui sont abordées dans le film. Il y a celle de l'Alentejo, qui est une région de culture très... Sèche est une région en voie de désertification, qui est donc le centre-sud du Portugal. Et la partie du film sur la pêche, on fait référence, est un village plus au nord, au sud de Porto, donc nettement plus au nord. Le lien entre les deux choses, bon, outre le fait de la mémoire et de la mise en contact, est ce personnage d'Antonio Reis, ce poète qui lui est du nord, là où, pas loin de là où se passait la pêche, et qui a écrit les dialogues de ce film que l'on voit, et qui a été fasciné par la poésie d'Alentejo et qui est parti là-bas. Donc c'est bien deux régions différentes du Portugal. Oui, bien sûr, il y a toujours une nostalgie, une saudade, comme on dit en portugais. Mais je crois que le film n'est pas une complainte ou une lamentation sur un passé qui est en train de disparaître. Le film remet aussi certaines choses... produit du futur, les rencontres de Virginia, de la paysanne d'Alentejo, que ce soit en Corse avec une chanteuse de Corse, Nicole Casalanga, ou avec une autre chanteuse corse qui est venue, qui l'a amenée en Alentejo, Miguela Cesari. Là, ils sont en train de produire quelque chose qui n'a jamais existé. Ils chantent ensemble. Ils chantent ensemble soit des chants corses, soit des chants portugais. Et ça, ce n'est pas virer vers le passé. Il y a un autre endroit où on voit, je crois, c'est bien que le présent revivifie les choses. C'est quand Virginia entend des enregistrements de 50 ans auparavant, où les trois quarts des chanteurs qui ont participé à ce chœur que l'on entend sont déjà décédés, mais qui étaient de son village. Et là, j'ai été très surpris, très ému quand c'est arrivé. Je lui faisais juste écouter les enregistrements et elle s'est mise à chanter avec eux. C'est-à-dire qu'à une distance de 50 années, il y a un nouveau chant qui s'est créé, qui est absolument impossible, elle chante avec des morts. Mais elle les re-rend présents en même temps. Donc c'est une notion de temps très...
Il y a une autre scène aussi qui rapproche le passé ou le présent, enfin où le présent vit le passé et le revivifie, c'est lors de cette projection du film où les habitants donc, se retrouvent évidemment tout minot, ah c'est toi, tiens regarde comment c'était, ah bah il n'y avait pas la mer aujourd'hui à enseveli la dune on va dire, ou le sable, mais à l'époque regarde il y avait encore les cabanes, il y avait encore...
Oui, ça c'est aussi une des la projection est aussi une des magies du cinéma qui rend présent du passé, bon. Et y compris la découverte de certains enfants de leurs propres parents qu'ils n'ont jamais vus. On entend souvent dans les personnes plus âgées dire à la personne à côté « Regarde ton père, regarde ta mère », que peut-être ils n'ont pas vu, qu'ils ne connaissaient pas autrement que par cette projection de film. Mais là aussi, il y a un travail de télescopage des choses. C'est-à-dire, on voit des personnages du film, donc des années, fin des années 60 à peu près, qui interpellent le réalisateur qui se trouve sur une dune à l'heure actuelle. Donc et là, si on se place au temps du film, on passe dans le futur et non plus dans le passé. Enfin, c'est un petit peu complexe comme construction, mais je crois que ça, on n'a pas besoin de se poser la question, ça coule comme ça.
Ça coule, et ça coule assez lentement quand même. Enfin, le rythme dans le film, j'allais dire, c'est l'apogée de la lenteur. Parce que, est-ce que c'est le rythme justement de cette culture-là, de la vie aussi là-bas ? Vous êtes rentré dans le rythme d'un pays, ou est-ce que c'est votre rythme aussi peut-être à vous ?
Je ne sais pas. Comment il se Moi, je n'appelle pas ça vraiment de la lenteur. Je crois que c'est plutôt un rythme auquel on est plus habitué. Alors qu'on va appeler lent parce qu'on vit sur un rythme un petit peu trépidant. Mais lent, surtout dans le rythme dans lequel on vit, a un côté toujours un petit peu... Ah, ça doit être...
Non, je n'ai pas dit chiant. Hein.
Je cherchais le mot que j'allais employer à la place. Moi, c'est ce que j'allais dire. Non, écoutez, je ne sais pas. Effectivement, entre labourer un champ sur un tracteur ou labourer en suivant un cheval, on n'est pas au même rythme. Et quand j'enregistrais, dans le premier film, quand j'enregistrais les paysans en train de chanter, il y avait un vieux monsieur qui chantait un chant de labour. Et j'ai mis un moment à comprendre, il faisait des gestes avec ses mains, très très lents. Et après qu'il ait chanté, je lui ai demandé mais pourquoi ces gestes avec la main quand vous chantez ? Il m'a dit c'est pour retrouver le pas de mes bœufs, et parce que mon chant était derrière les bœufs. Et si je ne fais pas ça, je me laisse prendre par le rythme actuel et je vais chanter trop vite. Donc, lenteur, on peut dire lenteur, mais c'est... je ne sais pas si le soleil se déplace très 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 vite dans le ciel, mais...
Felipe, pour le film Paraíso, au niveau du rythme aussi, dans le film, là, effectivement, c'est assez rapide, hein, c'est, on va dire, peut-être plus dans le rythme actuel, comme dit Pierre-Marie Goulet.
Del ritmo hay más rapidez en tu película.
Sí, hay otro tipo de tiempo.
Y a un otro tipo de temps.
Que me pareció que era un retrato de cómo es el tiempo, de cómo yo viví mientras filmaba.
Es, digamos, los reflejos de cómo él ha vécu el tiempo pendant qu'il filmait.
Y por supuesto hay un tiempo cinematográfico.
Et bien sûr, il y a un temps cinématographique.
Qui est le que m'intéressait pour tout le rythme de la película.
Et c'est lui qui l'intéressait pour toute la réalisation du film.
Le temps dans l'écriture ou le temps dans le montage, le rythme aussi du film, est-ce qu'il se construit dans le moment où tout est filmé ou dans le moment du montage, ou au contraire, est-ce qu'il est déjà écrit au moment où la réflexion est...
Entendiste.
Sí. La escritura fue básicamente un modo de aproximación histórica del país.
L'écriture a été plutôt une forme d'approche historique du pays.
El modo de filmación fue una aproximación más íntima.
Le mode de filmer a été plutôt un rapprochement plus intime.
Y el modo de montaje fue un tipo de reflexión sobre la relación que establecía entre esas dos cosas.
Et le montage a été une relation entre ces deux choses-là.
Efectivamente, cuando se filma en Super 8, hay que tener... no tienes un Yo exageré un poco los tiempos del Super 8 en la filmación por la cantidad de tiempo que tienen los cartuchos.
Il a exagéré un peu le temps de montage de filmer. De tournage, pardon. Il a exagéré parce que c'est un Super 8. Donc les cartouches sont longues.
Lo que quiero decir es que no tenía mucho tiempo para estar cambiando cartuchos mientras estaba en la calle, pero se hizo de la manera más calmada posible.
Il avait pas le temps en fait de changer les cartouches tout le temps dans la rue. Donc mais il a fait quand même de la façon la plus calme possible.
Como si estuviera filmando con roches de 16 de 10 minutos con la tranquilidad que eso me daba, aunque el Super 8 no lo da.
Comme si il serait en train de filmer avec une autre caméra mais avec les Super 8 qui.
Lo que quiero decir con esto, que no sé si se está entendiendo.
Ce qu'il veut dire avec ça.
Porque no creo que se esté entendiendo lo del tiempo.
Parce qu'il croit que ça se comprend pas, cette notion du temps.
Es que pienso que el Super 8 te exige un modo de filmar bastante rápido.
C'est que le Super 8 exige un mode de tournage très très rapide.
Y yo traté de no dejarme obligar de estos tiempos que exige este formato.
Et il a essayé de ne pas se laisser obliger par la caméra le mode de tournage.
Porque de todas maneras no estamos hablando de una superproducción donde yo tenía mucho 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 material.
Parce qu'on n'est pas en train de parler d'une superproduction où il avait beaucoup beaucoup de matériel.
Era un material que había que cuidar, pero de todas maneras me tomé la calma para filmar como si estuviera filmando en otro formato.
C'était un matériel qu'il fallait soigner, mais il a quand même pris le calme de filmer comme si il s'agissait d'un autre format.
Il était seul à ce moment-là.
Estaba solo en ese momento.
En casi todas las imágenes filmé solo.
Presque toutes les images il les a filmées tout seul.
Est-ce que ça c'est important d'être seul au moment de filmer ou le fait d'être entouré d'une équipe, qu'est-ce que ça change?
Es importante estar solo en esos momentos o qué cambia cuando estás rodeado de un equipo?
Escogí estar solo por varios motivos, también por motivos de que lo sentía como una necesidad como personal.
Il a décidé de le faire seul en répondant à un besoin personnel.
Y porque en ese sentido adquirí lo que tiene el Super 8, que es esa facilidad de filmar sin necesidad de otras personas.
Et c'est aussi à partir de format Super 8 qu'il a eu cette liberté de le filmer seul sans d'autres personnes.
Pierre-Marie Goulet, dans Encontros, les images reviennent. Ça fait partie aussi du rythme du film, c'est-à-dire que quand on entre chez certaines personnes, on a toujours la même introduction avant, et les plans, les mêmes travelling reviennent. Alors c'est vrai que... Alors, je me suis demandé pourquoi... Pourquoi on revenait comme ça sur certaines images? La répétition.
Oui, je ne sais pas. Quand vous écoutez une chanson, est-ce que vous vous posez la question pourquoi il y a un refrain?
Vous aviez, je me la pose aussi en musique.
Vous l'aviez deviné déjà, parce que vous avez pris vous avez dit le mot avant moi. Mais il y a un côté musical. Il y a le côté aussi, si on retourne sur la mémoire, des choses qui repassent par la tête. Il y a le fait de ne pas. Le film n'est pas fait sur des lancements d'informations continuels, mais sur un autre travail par rapport à la manière d'entrer dans les choses. Où je pense qu'on les approche, on y revient, on s'en éloigne. Voilà. Mais le plus simple, je sais que des fois, quelqu'un venait dans la salle et me disait : mais on a déjà vu cette image. Oui. Mais c'est une question qu'on ne demande pas à un musicien. On a déjà entendu ce thème-là dans ta symphonie, on ne lui dit pas. Enfin, je ne veux pas comparer le film à la symphonie, hein, mais c'est une question qui est très particulière au cinéma. On s'étonne au cinéma de cela, alors que ça fait peu partir d'un rythme général, de leitmotiv, de rappel. Et le film joue beaucoup sur de propres souvenirs immédiats. Ce qu'on voit, le dernier plan, c'est un espèce d'exercice pratique de tout ce dont le film a parlé. Il faut dire ce que c'est que le dernier plan, c'est un long plan où reviennent des sons du film, télescopés les uns avec les autres, mais d'une manière différente du film. Ils n'ont jamais été mis dans le film comme ça, c'est-à-dire s'entrechoquent du musique corse et chant d'Alentej, etc. N'ont pas existé comme ça dans le film, et pourtant tous ces sons-là ont déjà été dans le film. Et c'est un travail de mémoire aussi par rapport à un passé immédiat.
Le travail sonore là est complètement évidemment attaché aux images, hein, puisque les personnes chantent, racontent, nous racontent aussi beaucoup de choses. Donc l'image et le son sont intimement liés.
Oui, mais pas toujours dans le même synchronisme temporel. Vous avez des sons de 50 ans avant qui viennent se télescoper sur des images actuelles. Donc c'est pas du tout un son. L'image n'est pas toujours. Il y a un jeu aussi sur le temps entre l'image et le son. Le son n'est pas uniquement le son de l'image. Enfin, pas toujours. Uniquement le son de l'image.
Et ça, c'est au moment du montage, quand vous regardez l'image, vous dites ah tiens, cette chanson là peut-être, ou ce poème, ça irait bien.
Oui, tout le travail de montage, ça a été beaucoup un travail d'immersion dans les images que j'ai revues des dizaines et des dizaines de fois, et les sons écoutés des dizaines de fois, pour trouver des liaisons, des échos, un tissage où ce ne soit pas le concept ou l'idée qui amène à la liaison entre les choses, les échos, mais que ça vienne de la matière même, que les échos se fassent, que les rimes se fassent. Et les rimes, elles sont pas sur du papier, elles viennent de ce qu'on a de ce qu'on a comme matière.
Vous êtes musicien un peu? Vous chantez, vous êtes musicien un peu
ou... Oh, du tout.
Philippe, le son est évidemment au centre. Enfin, au centre. C'est un des points centraux aussi du film, hein, Paraíso. D'après ce que j'ai compris, il a été réalisé complètement après le montage image, et ça a été une véritable création sonore qui accompagne le film.
Effectivement, la construction du son se hizo después de tener un esqueleto de la imagen.
La construction du son s'est faite après avoir eu un aperçu de l'image.
Pero en la construcción de la imagen yo había dibujado unas intenciones de los tonos de cómo quería que fuese la película.
Mais dans la construction de l'image, il avait déjà dessiné le ton dans la construction du film.
Y fue con ese dibujo de los tonos de idas y bajadas que puede trabajar con los músicos y con los sonorizadores.
Et c'est avec ce travail de aller-retour et de ce dessin qu'il a pu adapter la musique, adapter les musiciens à ce rythme-là.
Fue a través de ese dibujo que pude trabajar junto con los músicos para establecer o el mismo recorrido o un recorrido contrario.
C'est à partir de ces dessins qu'il a fait qu'il a pu travailler avec les musiciens pour faire tous ces parcours ou le parcours contraire.
Donde iba Foley, donde iba un ambiente, donde iba rarefacción y donde todo eso empezábamos a trabajar cómo eso se iba mezclando.
Où aller Foley, où aller d'autres types de sons pour pardon.
Donde iba una reconstrucción sincrónica del sonido, donde iba una reconstrucción ambiental, donde iba algo que fuese una música atmosférica, donde iba el acento más enfático.
Ouais, où allait en fait le son qui s'approchait à une notion plutôt synchronique ou à une notion plutôt. No entendí lo que dijiste antes. Las nociones de
No, lo que quiero decir es que con el grupo de músicos estuvimos trabajando a partir de ese dibujo de tonos para entender en qué punto iba el sincronismo y en qué punto no.
Disons que ce qu'il veut dire, en gros, c'est qu'avec les musiciens, ils ont travaillé avec ces dessins pour savoir dans quel temps était adapté à ce qu'ils voulaient transmettre.
Merci. es un modo de hablar de mi película así de fragmentado como la película misma lo es.
Que c'est un mode de parler fragmenté comme le film est fragmenté aussi.
Aquí, es un modo aquí. De hablar de mi película aquí como fragmentado como la película es y me parece como muy raro hablar en este modo fragmentado.
Ça lui paraît un peu étrange de parler comme ça de son film de façon fragmentée.
Oui, mais c'est vrai que le montage dans le film, oui, mais c'est vrai que le montage dans le film aussi, peut-être le montage est très important. J'ai eu l'impression de regarder vraiment un montage très beaucoup de montage.
Le film est fragmenté. Tiene la impresión de ver siempre que hay mucho montaje en la película y que es muy fragmentado.
Gracias.
Merci.
Soy montajista.
Il est comment on dit ça?
Monteur.
Il est monteur.
Estudié en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma.
Il a étudié dans le Centre Expérimental de Cinématographie à Rome.
Donde me divertí bastante en esto del montaje.
Et il s'est amusé énormément dans le montage, dans le domaine du montage.
Par ailleurs, vous faites aussi des films expérimentaux, en dehors aussi de la pratique littéraire, en tant qu'écrivain et poète. Est-ce que l'écriture d'un film, l'écriture d'un poème, l'écriture d'un film expérimental, quel est le mode de langage finalement qui vous semble le plus adapté pour raconter,
¿Cuál es el lenguaje más adaptado para contar en la película experimental? ¿El lenguaje que tú encuentras más adaptado?
Efectivamente estamos hablando aquí de una película de no ficción experimental con fuertes acentos poéticos.
On parle ici d'un film fortement expérimental avec des forts accents poétiques.
Con unas fuertes connotaciones históricas.
Avec des fortes connotations historiques.
Un petit bâtard, un poco bastardo como película.
Un peu bâtard dans son film.
Como, no sé cuál es la forma más adecuada para exprimir un sentimiento de distancia que tenga que ver con la poesía.
Il sait pas quelle est la forme la plus adéquate de manifester un sentiment de distance à travers la poesía,
à travers la poésie. Pero yo creo que este fue el modo más adecuado que yo encontré para hablar de esto.
Mais ça a été, il croit que c'est le mode le plus adéquat qu'il a trouvé pour parler de ça.
Et effectivement, c'est expérimental.
Merci beaucoup, Felipe Guerrero. Pareiso, est-ce que s'est projeté aujourd'hui encore non, c'était hier, non, la dernière.
Creo que non.
Non, il ne croit pas.
Encontros de Pierre-Marie Goulet, est-ce qu'on aurait une chance de le voir ailleurs que dans un festival de documentaire?
Non. Pour la France, pour l'instant, il faudrait aller en Corse, parce que c'est une coproduction avec FR3 Corse aussi, donc il faut traverser.
Il faut aller en Corse pour aller le voir, c'est peut-être une bonne raison pour aller sur l'île de beauté. Merci à tous les deux d'être venus j'allais dire dans les studios, dans cet immense studio de Radio Grenouille, ici au Palais du Pharo. Donc c'est la dernière journée du festival, venez en profiter ce soir, 20h30, ça sera la cérémonie de clôture. Et puis par contre, le fil est toujours présent à Radio Grenouille encore aujourd'hui, puisque à 13h10, je crois que Olivier va nous faire rencontrer une artiste qui expose en ce moment à la galerie OU. À 18h, c'est le rendez-vous, c'est le magazine avec aujourd'hui Valérie Jouve, toujours en direct. Et puis à 21h, c'est l'heure des documentaires radiophoniques, donc là des documentaires uniquement sonores et qui sont diffusés uniquement sur Radio Grenouille et pas ici au Palais du Pharo. Donc ce soir, vous pourrez entendre L'enjeu du détail. C'est un documentaire de Emmanuel Taurine de 55 minutes. Voilà, merci à tous et puis à bientôt. Merci à Sébastien aussi pour la technique et un grand merci à Camille aussi pour son aide pendant le festival. Merci.
It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что, улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.